poète Alizé Lichty.
Une impression de grandeur, de château et même d'ancienne époque m'a submergée lorsque j'ai pénétré dans la cour du prieuré de Mottier pour la première fois. Une tourelle, une église et des murs se sont offerts à moi. J'ai eu l'impression de voyager dans un autre monde, un univers de quiétude, de calme et de volupté à la fois. Un voyage de courte durée, puisqu'après avoir été accueillie par la réceptionniste, j'ai fait la connaissance de Christine Moller, épouse de Jean-Marie Moller. Nous nous sommes installés dans une ancienne cuisine ou un ancien réfectoire pour discuter. Une pièce assez sombre, boisée et ornée de tableaux anciens. Très à l'aise et souriante, Madame Moller m'a ensuite emmenée dans les coins et recoins de ce vaste empire. Une bâtisse impressionnante qui comprend une ancienne église, des caves voûtées et une quantité de pièces assez impressionnantes. J'ai été fascinée par la méthode utilisée dans les caves à Mottier pour réaliser ces doux breuvages. Cela fait maintenant 188 ans que la famille Moller, de génération en génération, choisit, assemble et confectionne des vins mousseux. Pour parler de cette saga familiale, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Marie Moller. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, comment la famille Moller, qui est d'origine française, a-t-elle atterri à Mottier ?
Ah, mais ça, c'est toute une histoire. C'est même une véritable saga familiale. Mon ancêtre, Laurent Moller, qui était maire d'Aubernay en 1525, il était maire d'Aubernay, mais il avait également la fonction de maître tonnelier de son village et il possédait des vignes. Il a eu de nombreux enfants. Et un de ses descendants, Toby Moller, a émigré en Suisse. Pour quelle raison ? La raison, c'est qu'il faisait son tour de France, son tour d'Europe, son tour de compagnon, comme on le dit habituellement. Et il a commencé son voyage par la Suisse et il s'est arrêté à Fribourg. Et là, il est tombé amoureux d'une fribourgeoise qu'il a épousée. En 1758 exactement, et cette année-là, il s'est installé à Auvergne comme tonnelier et comme vigneron. Et en somme, toute la branche suisse est issue de ce Toby Moller, et je suis le descendant direct également de ce Toby Moller installé sur les rives du lac de Neuchâtel.
Alors, il était tonnelier, est-ce que c'est pour ça que vos ancêtres ont décidé de réaliser des vins ?
Oui, alors le métier de tonnelier est évidemment étroitement et intimement lié au travail de la vigne. Et à l'époque, on ne concevait pas d'exercer un métier de tonnelier sans être soi-même vigneron. C'est une longue tradition. Moi-même, je ne suis pas vigneron, mais je porte ce métier dans mon cœur et dans mon sang.
Ce qui est assez impressionnant, c'est que vous êtes aujourd'hui la quatrième génération de la famille Moller à faire perdurer cette tradition. Vous l'avez dit, on peut réellement parler d'une saga familiale ?
Oui, c'est une saga familiale dans le bon sens du terme, je dirais, parce que à un moment donné, si vous voulez, un de mes ancêtres, le père du fondateur de Louis-Édouard Moller, était en somme l'agent général en France pour les dentelles du Val de Travers. Et puis il s'est mis à son compte, il s'est installé. Lui-même n'était pas vigneron, il a fait du commerce, il a créé une entreprise dans le nord de la France, à Lille plus précisément. Et puis, il est mort assez jeune, ce qui fait que son épouse, qui était de Mottier, est revenue à Mottier. Et alors, mon arrière-grand-père, Louis-Édouard Moller, le fondateur de la maison Moller, a pu faire ses études à Neuchâtel, puis en France. Et quand il a entendu dire que le prieuré, où il se faisait déjà de la méthode traditionnelle, était à vendre, il est revenu, il a acheté le prieuré un peu plus tard et il a poursuivi, il a fait œuvre de pionnier et continué à développer cette activité à Mottier.
En 2006, vous avez eu des problèmes financiers. Comment est-ce que vous avez relevé la tête ?
Ah, c'était un grand défi. Je n'étais évidemment pas habitué à pareille situation. Nous venions de construire dans les années 90 un nouveau bâtiment d'élaboration, une sorte de grande cave qui était destinée à faire face à notre développement. Malheureusement, à ce moment-là, la conjoncture a été défavorable, la concurrence venant du monde entier. Nous avons rencontré des problèmes de liquidité, réellement. Et il faut savoir que dans ces situations-là, les crédits commerciaux augmentent, on n'est pas loin de 10%, les taux hypothécaires étaient du même ordre, ce qui faisait que c'était extrêmement difficile de maintenir, disons, l'exploitation de l'entreprise. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé trouver les actionnaires familiaux, bien entendu, pour demander à ce qu'ils nous soutiennent, à ce qu'ils nous aident, mais j'ai également rencontré d'autres personnes qui avaient la fibre économique dans le canton de Neuchâtel et qui, vu le capital de sympathie dont nous bénéficions et vu aussi le plan de développement qui était le nôtre, ils ont joué le jeu, ils nous ont aidés et nous avons également bénéficié de la coopérative romande de cautionnement qui nous a garanti certains prêts et qui nous a aidés à franchir ce pas. Je dois dire aujourd'hui que je dors vraiment tranquillement dans le sens où tous ces prêts ont été remboursés, ce qui témoigne de la bonne santé de notre entreprise.
Alors Monsieur Moller, vous fabriquez donc des vins mousseux, pourquoi on ne parle pas de champagne ?
Alors l'appellation champagne est une appellation d'origine, une origine contrôlée qui correspond à un territoire qui se trouve en France. Cet territoire, cette région est protégée et naturellement nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de l'employer ici en Suisse. En revanche, nous pratiquons et nous élaborons nos cuvées selon la même méthode qui est pratiquée par nos voisins.
Alors c'est la méthode traditionnelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la méthode traditionnelle, c'est quoi ?
Alors, la méthode traditionnelle se caractérise principalement par la deuxième fermentation en bouteille. Et c'est la marque unique, en somme, de cette méthode. Et cette fermentation en bouteille, elle est très compliquée en ce sens que il faut, et c'est absolument nécessaire, que l'œnologue, au préalable, ait assemblé les vins. Et l'assemblage est une maîtrise qui suppose d'avoir aussi le sens olfactif, la mémoire, le goût, et il faut savoir anticiper. Alors quand il a assemblé les vins, effectivement, il va les mettre en bouteille. Après la première fermentation qui a eu lieu, il va les mettre en bouteille pour la deuxième fermentation avec une liqueur et des ferments qui vont justement provoquer cette fermentation naturelle en bouteille.
Il n'y a pas de vigne au Val de Travers ou très peu. Du coup, d'où vient votre raisin ?
Alors le raisin vient du littoral neuchâtelois principalement. Nous avons des vignes à Colombiers, à Baule, à Boudry, mais également à Neuchâtel, à Marin, tout près d'ici, et au Landron. Et comme cela ne suffit pas, ces vignes sont plantées en Pinot Noir et en Chardonnay, mais comme cela ne suffit pas, nous achetons la récolte à d'autres vignerons neuchâtelois. Et comme notre production est assez importante, nous devons faire appel à des vignerons, notamment genevois et vaudois, pour leur acheter leur récolte de manière à pouvoir satisfaire les besoins en production chez nous.
Alors une fois que vous avez le raisin, où est-ce que se passe la suite de la réalisation ? Est-ce que c'est uniquement dans une cave à Motier ?
Alors nous élaborons nos cuvées sur deux sites, si on peut dire, mais principalement au prieuré, puisque c'est là que tous les vins, les moûts, les vins vont être réceptionnés, et qu'ils vont faire leur première fermentation. Ça peut varier d'une année à l'autre, bien entendu. Certains font une première fermentation chez nos vignerons directement, et on reçoit à ce moment-là le vin, ou autrement ils la font directement en cuve chez nous. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura la deuxième fermentation en bouteille, la mise en cave. Et c'est seulement plus tard que sur le deuxième site de production, il y aura, après de nombreux mois, bien entendu, d'élaboration, il y aura la fin du processus avec le dégorgement et l'habillage, etc. Le remuage également, en partie, se fait dans le nouveau bâtiment. Mais une partie du remuage se fait également à la main, au prieuré. Pour les cuvées millésimées.
Alors, on a vu d'où venait le raisin, où et comment il était fabriqué, et ensuite, vous le vendez où ? Est-ce que vous le vendez uniquement en Suisse ?
Alors, notre marché est principalement la Suisse. La Suisse alémanique joue un rôle très important. C'est un petit peu proportionnel aussi à la densité de population entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Et nous vendons aussi un petit peu à l'étranger, en Allemagne notamment, en Angleterre. Et puis, nous sommes depuis peu aussi au Danemark, en Hollande, et je dois dire, très sporadiquement, à Singapour et à New Delhi.
Alors, vous me le disiez avant, hein, ce qui est étonnant, c'est que les Suisses romands sont beaucoup moins intéressés. Vous avez beaucoup plus de visites de Suisses allemands.
Alors, le Suisse alémanique, c'est un passionné de découvertes, et il va faire des kilomètres pour découvrir des curiosités qui l'intéressent, ou s'il s'intéresse à un vin, il va franchir facilement de longues distances pour venir le découvrir. Et on peut dire que 70 à 80% des visiteurs, mais aussi de notre clientèle, est suisse alémanique.
À l'époque, je l'ai vu grâce à des diplômes, hein, qui ornent les murs du prieuré. Vos vins étaient aussi exportés, même jusqu'aux États-Unis.
Oui, à l'époque, nous avons connu une époque d'exportation intense à partir de 1859 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement, notre marque était associée à ses débuts avec l'horlogerie neuchâteloise notamment, ce qui fait qu'on retrouvait des comptoirs molaires en Asie, à Hong Kong, à Shanghai, à Buenos Aires, mais aussi en Australie, et pendant de nombreuses années également, jusqu'en 1908-1909, la maison Molaire était le fournisseur officiel de la maison royale d'Italie, par exemple.
À côté de l'exportation, on le sait, vos vins sont appréciés. Vous avez d'ailleurs reçu beaucoup de prix, même un lundi, la médaille d'or au concours mondial de vin à Bruxelles pour votre cuvée Louis-Édouard Molaire 2011.
Ah oui, alors ça c'est une fierté, merci d'en parler. C'est la dernière médaille que nous venons d'obtenir avec cette cuvée typiquement neuchâteloise. C'est un AOC neuchâtelois, un blanc de noir, une de mes cuvées favorites d'ailleurs, et qui a obtenu ce prix lors de ce concours reconnu, sérieux. Et pour nous, ça, c'est de nouveau la garantie de la qualité du travail qu'on fait. On peut se mesurer aussi à d'autres maisons, et ça nous permet de nous situer aussi sur le marché. Et ça nous encourage aussi tous beaucoup, au niveau de l'équipe, de continuer dans cette voie. On a de nombreuses médailles. On a également eu l'année passée obtenu le Grand Prix du vin suisse avec la cuvée Bel Héritage et la cuvée Louis-Édouard Molaire aussi. Ça, c'était une grande première pour nous et une grande satisfaction. Et les médailles remontent loin en arrière, puisqu'en 1859 déjà, nous avions la première médaille au concours national de Payerne, suivie de peu par le concours international en Hollande, où nous avons obtenu une médaille d'or avec notre cuvée brute.
Vous connaissez l'expression « quand le vin est tiré, il faut le boire ». Eh bien, on va retrouver Christine Moulaire au prieuré à Mottier, en pleine opération de tirage. Écoutez ce reportage, il est signé Joël Picromain.
Sortie de boîte.
Toute notre équipe se trouve sur la chaîne de tirage, qu'on appelle tireuse, biduleuse, capsuleuse.
Alors oui, alors le biduleuse, moi je me réjouis de voir ce que c'est.
Donc vous voyez, là, la première personne va déposer les bouteilles sur ce tapis, la tireuse, 13 ou 14 bouteilles à la fois avec cet appareil, hein, qui les serre, donc il y a un compresseur en haut et ça va permettre de serrer les bouteilles pour en déposer 13 ou 14 à la fois sur ce tapis. Ensuite, les bouteilles vont être remplies, donc c'est le tirage proprement dit. Donc le vin a été mélangé au sein d'une cuve avec l'ajout de la liqueur de tirage et les bouteilles sont remplies juste là. Ensuite, elles passent sur un autre petit carrousel et vous voyez cet opercule en plastique blanc qui est déposé sur chacune des bouteilles. Donc ce opercule sera là pour récolter le dépôt de fermentation à la fin.
Ça c'est la capsule.
C'est le bidule.
C'est ça le bidule.
C'est le bidule. Et puis là, il y a un autre carrousel sur lequel la capsule couronne est déposée. Vous voyez là, il y a le bidule.
D'accord, ouais, on voit qu'il y a une étape supplémentaire.
Et puis il y a un petit tourniquet qui fait que les bouteilles sont aussi comptées, comme ça on sait exactement combien on en a. Et deux personnes vont remplir ces grillages pour après descendre les bouteilles en cave pour la deuxième fermentation.
Un jour comme aujourd'hui, il y a combien de bouteilles qui vont être remplies?
Alors, on peut remplir 4500 bouteilles à l'heure. Donc, disons que s'ils ont travaillé pendant 5 heures, faites les calculs.
On va calculer, oui.
Alors, on va descendre en cave.
On va suivre le chemin des bouteilles.
Voilà, on va suivre le chemin des bouteilles.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous retrouvez sur notre site internet. De retour dans nos studios avec Jean-Marie Moller. On l'a entendu, des machines aident l'homme lors de diverses étapes. Sans les machines, est-ce qu'il serait possible de produire autant?
Ce serait possible, mais alors il faudrait beaucoup plus de monde. Hein. Il faut le dire franchement, les appareils que nous avons travaillent nuit et jour s'il le faut, et avec une régularité, une précision. Et bien sûr que ça ne remplacera jamais la main de l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous formons toujours du personnel sur la manière de travailler à la main, de tout faire à la main de A à Z. C'est un petit peu comme pour les grandes pièces d'horlogerie. Un employé doit être capable de tout refaire à la main afin de garder et de préserver en somme la culture, le savoir-faire, le know-how, comme on dit aujourd'hui, de la méthode. Et c'est très important pour nous. La machine est un complément, nous aide, mais ça ne remplacera jamais l'homme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le vin est une matière vivante et elle n'est pas soumise simplement à des machines. Il faut que l'homme soit là pour contrôler le processus. Mais comme on a parlé tout à l'heure d'œnologue, le vin est quelque chose qui entre en symbiose avec lui et l'œnologue va en somme participer de manière profonde, intérieure, et il y a une sorte de fusion qui se crée et l'un va influencer l'autre. C'est quelque chose d'un peu miraculeux qu'il faut voir et découvrir pour le comprendre vraiment.
Quelle est votre production annuelle?
La production se situe aux alentours de 500 000 bouteilles par année, ce qui veut dire 600 000 cols si je prends les demi-bouteilles et les grands flacons. Ça fait 600 000 cols, donc voilà, c'est l'ordre de grandeur.
Le prieuré est un ancien bâtiment important. On dit même que si le village de Mottier se nomme ainsi, c'est en raison du monastère, c'est juste?
Oui, c'est exact, parce que monastère, Moustier, Mottier, vous voyez que le chemin n'est pas très loin. Et c'est effectivement ce monastère qui a donné le nom de Mottier à Mottier. Et on est là sur un site casadéen. Le prieuré est très ancien, puisque nous avons retrouvé ses origines grâce aux fouilles qui remontent au VIe siècle. Le prieuré a été fondé sur un site gallo-romain. Il y a eu une première église, une deuxième église au 8e siècle, au 11e siècle, c'était une magnifique église romane, immense, 35 mètres de long, 20 de large, très haute. Et plus tard, au 15e, 16e siècle, évidemment, l'église a été, suite aussi à un incendie, réduite et transformée en style gothique. Voilà. Mais il y a une très longue histoire, millénaire, et les moines, les bénédictins, ont vécu là plus de 1000 ans et ont imprégné les murs de leur rituel, de leur prière, et on peut encore ressentir aujourd'hui, quand on s'y promène, cette spiritualité, cette énergie, en somme, qui émane encore des pierres aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ce qui bonifie nos cuvées.
Est-ce qu'il y a encore des traces du passé aujourd'hui?
Des traces du passé, oui, nous avons bien entendu retrouvé, alors au niveau historique, un certain nombre d'objets, de bijoux, de tuiles de l'époque romaine, quelques petits bijoux en or également qui se trouvent maintenant au Laténium. Et également, alors évidemment, les fouilles ont permis de faire des découvertes, notamment dans la crypte, puisque nous sommes le seul endroit du canton où il existe une crypte au sein du prieuré, ce qui atteste de l'importance en somme du lieu. Et on a même trouvé des reliques.
Arrêtons-nous maintenant un instant pour parler de montres. Est-ce que ça vous tente de porter un morceau de vache au poignet? C'est en tout cas le sujet choisi par Marie-Lise Saillard. Écoutez sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
Tu perds ton sang-froid. Rebelle, anticonformiste, lanceur de pavés dans la mare ou jeteur de coups de pied dans la fourmilière, appelez cette maison comme vous le voulez, n'empêche, elle ose. H. Moser et compagnie en avaient marre du Swiss Made. La manufacture de Schaffhouse voulait dénoncer le fait que depuis le 1er janvier, il suffit que seuls 60% des composants d'une montre soient d'origine suisse pour obtenir ce label. L'entreprise est allée plus loin. Elle s'est engagée sur le long terme à soutenir et à préserver l'horlogerie mécanique et les métiers qui y sont liés. Du coup, elle a voulu faire une montre 100% suisse, mais pas n'importe quelle montre. Pour ça, elle s'est tournée vers une vraie Suissesse, Marguerite. Marguerite produit du lait. Avec le lait de Marguerite, on peut fabriquer plusieurs produits.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Grâce à Marguerite, on a du fromage. En l'occurrence, du Vacherin Mont d'Or, mais pas n'importe lequel. Hein. Un Vacherin Mont d'Or qui a obtenu une médaille d'or. Et ce fromage a été intégré, tenez-vous bien, à un matériau composite spécial pour en faire un boîtier de montre. Mais non, rassurez-vous, ça ne sent pas mauvais. Et Marguerite est aussi présente dans le bracelet.
Une jolie fleur dans une peau de vache.
Bracelet en peau de vache suisse, évidemment. Le cadran est rouge, les index et les aiguilles sont blancs. Rouge et blanc comme... Non, pas comme le vin rouge et blanc, comme le drapeau suisse. Et comme chez H. Moser et compagnie, on est un peu moqueur, le pied de nez est allé jusque dans le nom de la montre, la Swiss Mad Watch. Mad comme fou. Modèle unique, la Swiss Mad Watch a été vendue aux enchères au sein d'un lot comportant une autre montre de la même marque, la Swiss Alp Watch.
Adjugé !
Coup de marteau, le montant s'élevait à 100 000 francs. Les bénéfices de la vente ont été entièrement remis à la Fondation pour la culture horlogère suisse. C'est elle qui va se charger de redistribuer cet argent pour servir ses deux objectifs, soutenir l'apprentissage du métier d'horloger et sauvegarder le savoir-faire lié au métier d'art horloger.
Pile à l'heure.
Et vous, Jean-Marie Mouler, est-ce que vous pourriez porter une bribe de vache au poignet ?
Sans aucun problème. J'adore les animaux en plus.
On l'a dit, vous êtes la quatrième génération de Moller à faire perdurer la tradition des vins mousseux. La question que tout le monde se pose, y aura-t-il une cinquième génération ?
Oui. Ma nièce d'ailleurs, qui représente la cinquième génération, a rejoint l'entreprise il y a plus d'une année maintenant. Elle avait d'ailleurs fait de nombreux stages auparavant chez nous. Et imaginez-vous, elle a tout quitté à Paris pour rejoindre l'entreprise familiale.
Et elle va reprendre le flambeau quand ?
Alors d'ici quelques années, bien entendu, elle est encore dans sa période de formation. Actuellement, elle a rejoint la direction commerciale, mais elle s'initie à tous les aspects de l'entreprise. Évidemment, il faut un certain temps pour maîtriser tous ces aspects-là et être absolument opérationnel.
Est-ce que vous envisagez un agrandissement des caves Moller ?
Oui, on a l'idée effectivement de construire une nouvelle grande cave pour pouvoir répondre à la demande. Nous sommes depuis plusieurs années en discussion avec les autorités aussi pour pouvoir construire au Val de Travers cette nouvelle cave. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce que on se trouve dans une zone protégée. Il y a la nouvelle loi sur l'environnement et il y a des contraintes et il faut tenir compte aussi de la faune, de la flore et des habitants.
Sortie de boîte prend fin. Nous étions en compagnie de Jean-Marie Mouler qui réalise les vins mousseux à moitié au Val de Travers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et la semaine prochaine, pas d'émission en raison de l'ascension. Par contre, je vous retrouve avec plaisir le jeudi 1er juin pour parler de sac à dos spécialement dédié aux Globetrotters. D'ici là, belle soirée, bonne fin de semaine.
Sortie de boîte.